1967, ça fait déjà 19 ans. 19 ans que l'État d'Israël a été créé, et pourtant 19 ans qu'on vit avec un point noir, qu'on vit avec une réalité avec laquelle on n'est pas prêt à assumer. 19 ans que notre cœur est coupé en deux. 19 ans que Jérusalem a son propre mur de Berlin, son mur de Jérusalem. Alors ce n'est pas du tout un mur comme on pouvait avoir à Berlin. Mais c'est un mur, une véritable séparation entre la partie ouest de la ville et la partie est de la ville. La partie ouest de la ville appartient à Israël. C'est la capitale. La partie est de la ville a été conquise en 1948 par les Jordaniens. Et voilà qu'en 1967, la guerre éclate. Une guerre qui n'est pas du tout censée arriver à Jérusalem. C'est une guerre au nord avec le front de la Syrie, au sud, avec les Égyptiens. Mais a priori, la Jordanie, elle se tient tranquille. D'ailleurs, dans les infos qu'on a et dans les messages qu'ils tentent de nous faire passer, ils n'ont pas prévu de rentrer en guerre. C'était mal connaître les Jordaniens. Le 5 juin 1967, au soir, fin de la première journée des combats, ça y est, c'est officiel. Les Jordaniens se mettent sous la tutelle complète de l'armée égyptienne. Ils sont une force d'invasion comme les Égyptiens et les Syriens. Et à partir de ce moment-là, eh bien, une question demeure. Qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem ? Non, je vous arrête tout de suite. Pas qu'est-ce qui va se passer dans la vieille ville. Non, on n'est pas encore dans la vieille ville. Enfin, vous savez quoi ? Venez, je vais vous montrer. Regardez, je vous montre. On ne parle pas du tout de la vieille ville. La vieille ville, elle est là. Vous la voyez ici, les murailles de la vieille ville, vous les connaissez très bien. Ici, c'est notre fameux Kotel, mais on n'y est pas encore. Non, parce que pour le moment, tout ce qui nous intéresse, c'est ce que vous voyez ici. Oui, c'est pas sur la carte, c'est fait exprès. Ce qui nous intéresse, c'est la montagne qui est là. La montagne qui est là, vous la connaissez. Ici, le Mont des Oliviers avec le fameux cimetière de Jérusalem. Et à côté, en fait, c'est la même montagne, mais juste on a donné un autre nom à l'autre partie de la montagne. On l'appelle le Mont Scopus. Harat Sofim, par rapport au Harat Zetim. Pourquoi Harat Sofim ? Sofim, celui qui voit. Parce que ici, sur le Mont Scopus, il y a une enclave juive, avec l'université hébraïque de Jérusalem, une enclave juive à l'intérieur des terres qui ont été prises par les Jordaniens en 1948. Et donc, à partir du moment où les Jordaniens rentrent dans la scène, dans le combat, eh bien, la première chose à bien décider, c'est comment on va faire pour protéger nos 120 hommes qui sont sur le Harat Sofim, sur le Mont Scopus. Il faut débarquer des troupes qui n'étaient pas prévues, parce qu'on n'avait pas prévu d'aller à Jérusalem, mais pour aller sauver les 120 du Harat Sofim. Parce que les choses soient claires, si les Jordaniens arrivent sur le Mont Scopus, on connaît déjà la fin du film. Sur les 120 combattants du peuple juif, il n'en restera aucun. Donc l'opération est très simple. Il va falloir emmener des gens vers le Mont Scopus. Mais pour y arriver, il faudra passer par une colline, la colline des munitions, Givat HaTachmoshet, un endroit clé. Si on veut pouvoir sauver nos hommes, il faudra passer par là et par l'école des officiers, là où est censé être le gros des troupes jordaniennes dans la région. Ça va être certainement le combat le plus décisif de l'histoire. Venez, on va aller sur la colline des munitions. Voilà, alors les amis, vous regardez, je vous agrandis ici le coin gauche de l'écran. Ça va constituer notre attaque sur le flanc gauche. Ici, sur le flanc droit, vous voyez, j'agrandis la partie droite de l'écran. Ah, enfin, c'est comme ça qu'on aurait dû faire le briefing de mission pour le combat de Givat HaTachmoshet. On aurait dû avoir soit un ordinateur, soit, pour les besoins de l'époque, on est quand même en 1967, on aurait dû avoir, je sais pas moi, des cartes grandeur nature, des grands machins qui nous expliquent où on va. Qui sont les forces en présence? Où est-ce qu'il faut passer? Le problème, on a une carte. C'est une carte qui est une vision aérienne du site. Le problème, c'est qu'elle fait cette taille-là. C'est une carte A4. C'est une feuille. C'est une feuille où on a une photo qui a été prise de l'air, d'un avion, sur toute la zone. Ce qui veut dire que Givat HaTachmoshet, sur notre carte, fait à peu près cette taille-là. Non, vous avez compris que ce n'est pas faisable. Ben oui, c'est de ça qu'on parle. On va arriver maintenant ici sur la colline des munitions. On a des informations. Les informations sont claires. Normalement, il y a deux plougotes, c'est-à-dire à peu près 200 hommes, dans l'école des officiers, Bet HaSefer LaShotrim, mis en place par les Anglais dans les années 30, un endroit où est censé se reposer énormément de Jordaniens. Mais ici, dans la colline des munitions, d'après nos informations, il n'y a censé avoir qu'une trentaine d'hommes, une mahlaka jordanienne. Très bien, on va en faire notre 4 heures, enfin, notre 2 heures du mat. Mais comment ça marche ? Venez, on fait un petit peu de Torat Lechima, on fait un petit peu de stratégie militaire. Lorsqu'on fait une formation militaire quelconque, eh bien, une des bases qu'on apprend, c'est que l'attaquant est toujours plus nombreux que le défenseur. Eh oui, celui qui défend sa position, d'abord, un, il est en place, deux, en général, il a les points stratégiques, c'est-à-dire pour nous, la hauteur, on est sur la colline des munitions, et trois, eh bien, ils ont des armements beaucoup plus stables que celui qui vient attaquer. Donc, eh bien, les choses sont claires. Si tu veux attaquer un endroit, il va falloir que tu sois à peu près 3 fois plus nombreux que le défenseur. Donc, si ici, dans la colline des munitions, on a prévu d'avoir 30 opposants, eh bien, il faut qu'on vienne à 90. Qu'à ça ne tienne. On va donc débaucher ici, à Givat HaTachmoshet, 90 hommes. Une plouga. Génial. Mais attendez, mais c'est qui ces hommes ? Ces hommes, ce sont les parachutistes. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ils n'étaient pas occupés ailleurs ? Attends. Les parachutistes, c'est censé être l'élite de Tsahal à l'époque. Quoi ? Pourquoi est-ce qu'ils sont libres tout d'un coup ? Ben pour une raison très simple. Normalement, tous les parachutistes de Motagour, celui qui était le commandant de l'unité des parachutistes, eh bien, ils étaient censés partir dans le Sinaï. D'ailleurs, ils étaient tous prêts, avec leurs parachutes, à monter dans les avions qui les emmèneront au-dessus du canal de Suez et on va les parachuter là-bas pour aider à la conquête du Sinaï. Le problème, c'est quoi ? Bah, c'est qu'à la fin du 5 juin, bah, on appelle Motagour et on lui dit bah, « Écoute, pas besoin. On a réussi à avancer trop vite avec les tanks et on a déjà conquis tout le Sinaï. » Résultat des courses, Motagour, il n'a plus rien à faire avec ses hommes. Et il dit à Moshe Dayan « Mais enfin, c'est pas possible. Je ne vais pas participer à la guerre des 6 jours. » Mais enfin, bon, ça ne s'appelle pas encore la guerre des 6 jours. Mais je ne vais pas participer à la guerre avec mes hommes. Et là, Moshe Dayan lui dit « Écoute, prépare-toi. On ne sait pas ce qui va se passer à Jérusalem. Soyez prêts pour Jérusalem. » Et résultat des courses, eh bien, il sera prêt pour Jérusalem. Je vous entends. Je vous entends. Soyez prêts pour Jérusalem. Ouais, quelqu'un lui avait dit ça avant, à Motagour. Ce quelqu'un, c'était un ami. Un ami totalement différent de lui. Le grand rabbin de Tsahal, le Rav Shlomo Goren. Ils avaient fait un pacte tous les deux. C'était quoi le pacte ? Ils rentreront ensemble à Jérusalem. Bon, j'en dis pas plus. Les amis, Motagour arrive ici avec ses hommes. Mais on a dit qu'il faut maintenant se préparer pour l'attaque de la colline des munitions. Alors regardez bien, parce que ce que vous voyez là, les blindés qui sont là, ben ils sont pas là, vous les oubliez. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est une guerre de tranchées. Oui, quand on parle guerre de tranchées, pour nous les francophones, on pense tout de suite à la Première Guerre mondiale, la guerre des tranchées. Alors, on ne parle pas de tranchées aussi imposantes qu'on a pu avoir en 14-18, mais on parle des 3 tranchées de la colline des munitions. Ces tranchées avaient déjà été creusées par les Anglais. C'était une place forte qui était déjà mise en place. Mais maintenant, elles vont être pour nous les tranchées de la destinée, les tranchées de l'espérance, les tranchées qui vont pouvoir nous amener vers Jérusalem. Mais tout ça, on ne le sait pas encore. Allez, venez. Briefing de mission. Imaginez-vous, 2h du matin, noir total. On est le 6 juin, mais on est surtout Kafret Beiyar. C'est-à-dire que pour nous, c'est la fin du mois. Pourquoi c'est important ce détail ? Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de lune. Donc ça veut dire qu'il fait vraiment tout noir. Donc on a dit, notre briefing de mission, on est là, on a une feuille A4. A4, on ne voit rien. Alors on sait quelque chose. On sait qu'il y a 3 tranchées. Une à l'est, une à l'ouest et une au centre. Très bien. On a dit, d'après nos informations, ils sont 30 défenseurs, on vient avec 90 hommes, 3 marlacotes. Ben, ça va, tout va bien. Donc on sait qu'on a 3 tranchées. Une à l'ouest, une à l'est et une au centre. Oh, si vous voulez, on va faire plus simple. Une à gauche, une à droite et une au milieu. Ça, c'est ce qu'on sait. Alors, ça ne va pas être compliqué. On a notre marlaka 1, marlaka 2 et marlaka 3. 3 sections, 30 hommes. Tout va bien. Ça, c'était le briefing. Mais lorsqu'on arrive sur place, en plein milieu de la nuit, ils nous attendaient. Et directement, on est reçu avec un déluge de feu. Et ça nous prend à peine quelques secondes pour comprendre trois réalités. La première, on voit rien. La deuxième, ils sont beaucoup plus nombreux que prévu. Et la troisième, ils sont beaucoup plus armés. Ça tire dans tous les sens. Et dans le brouhaha, eh bien, on rentre dans la première tranchée, là où je suis. Sauf que normalement, on devait rentrer ici seulement l'équipe de gauche. Mais le commandant de l'équipe du milieu se trompe et il rentre dans la tranchée de gauche. Résultat des courses, eh bien, celui qui devait être à sa droite rentre dans la tranchée du milieu. Et celui qui devait être à sa gauche, il n'a plus de tranchée. Résultat des courses, on vient tous au même endroit et au lieu d'être 30 ici, 30 là et 30 là-bas, on va être 60 ici, 30 là et 0 là-bas. Le balagan. Et donc nous voilà dans les tranchées, les amis. Nous y voici. Brouhaha complet, ça tire dans tous les sens. Et puis regardez, on avance, mais on ne peut pas avancer debout. Les tranchées sont très basses, il faut donc être accroupi. Chaque tête qui dépasse, c'est une balle perdue. Mais on ne sait pas où on avance. On avance, on voit que la tranchée, elle monte. Seulement on voit face à nous un bunker avec une mitrailleuse qui tire vers ici. Et puis on avance tranquillement, bah non, parce que ici directement à gauche, on voit un autre bunker duquel va sortir un autre combattant jordanien. Et il faut avancer. Mais on est tapis, tapis ici. Et on ne sait pas quoi faire. On avance très lentement. Et le problème, c'est que vient d'être lancé, alors qu'on vient à peine de monter quelques mètres. Et nous sommes dans une section de la tranchée qui est a priori extrêmement protectrice. Ça y est, ma tête est protégée. Ils ne peuvent pas me tirer dessus. Oui, mais je ne vois rien de ce qui se passe non plus au-dessus. Et résultat des courses, juste ici, à l'endroit de l'arbre, eh bien, une grenade est lancée et tombe dans la tranchée. Par miracle, elle explose et on n'était pas encore dessus, sans faire de dégâts. Mais on ne peut plus continuer à avancer comme ça. Ils vont nous balancer des grenades toute la journée. Il faut qu'il y en ait un qui sorte. À ce moment-là, Yakichetz, un des commandants de l'unité, il se retourne. Il n'a pas le temps de réfléchir, il n'a pas le temps de demander. La personne qui est derrière lui, elle s'appelle Ethan Navé. Il lui dit, Ethan, t'as vu que c'est ? Ça veut dire quoi ? Il dit, Ethan, tu sors. Tu sors. Qu'est-ce que ça veut dire, tu sors ? Ça veut dire, tu sors parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui, dehors, puisse nous couvrir. C'est-à-dire, puisse avancer avec nous pendant que nous, on avance à l'intérieur. Lui, il avance dehors. Et sa mission, elle est simple. Tu tires. Tu tires dans toutes les directions où il y a un bunker. Comme ça, les ennemis se cachent et ça nous laisse le temps d'avancer. Et tu avances avec nous. Le problème, c'est quoi ? Ethan n'aura aucune chance de survivre. Et il le sait. C'est-à-dire que lorsque tu vas sortir, tu vas être complètement à découvert. Tout le monde le sait. Normalement, je n'ai pas le droit de lui demander. Mais là, je n'ai pas posé la question. J'ai dit, Ethan, tu sais. Veitan, loises le rega. Ethan n'a pas hésité une seconde. Ethan avait sorti. Et il a couru sur 30-35 mètres, ici. Et il a avancé. Et il a tiré dans tous les sens. Ce qui nous a permis à nous d'avancer également et d'arriver en haut de la colline. Suivez-moi. Ethan va réussir à avancer 35 mètres. 35 mètres durant lesquels on avance avec lui, dans les tranchées. On a entendu trois fois Ethan crier « Ah !» Et ça, c'était pour nous le signe qu'il venait de se prendre une balle. Le médecin légiste dira que finalement, il en a pris beaucoup plus. Finalement, après 35 mètres d'avancée, il va réussir à nous permettre à nous de monter la colline, sans compter tous les bunkers qu'il va falloir gérer dans la montée. Mais finalement, on réussit à arriver à ce niveau-là. On ne s'en rend pas compte, mais on a arrêté de monter. Ça y est, on est arrivé en haut de la colline. Ethan, au bout de ses 35 mètres de Gvoura Eliona, va prendre une balle dans la tête et va tomber dans la tranchée. Mais il ne sera absolument pas tombé enfin. Il nous aura permis d'avancer, d'arriver au niveau du haut de la colline et nous permettre de nous aussi sortir maintenant des tranchées et de nous battre à armes égales. Un de ces hommes, venez. Un de nos hommes, lui aussi, est sorti une fois qu'on a réussi à monter la colline. Il s'appelle Kandel. Il arrive et il va en rampant. Il va en rampant monter jusque sur le bunker ici. Et alors que les Jordaniens nous attendent de ce côté-là, eh bien, Kandel va arriver de l'autre côté et va sortir sa grenade et va la lancer dans le bunker ici. On continue à avancer. On continue à avancer et on continue à avancer. Et regardez ce qu'on peut voir ici derrière nous. Derrière nous, nous avons le grand bunker des Jordaniens. On y est presque. On va réussir. On va réussir à prendre le bunker. Si on leur prend le bunker, c'est terminé. La colline sera entre nos mains. 2h30 du matin, c'était le début des combats. À 5h30, la colline des munitions est presque entre nos mains. On a réussi à monter, toutes les unités se rassemblent et tous vont arriver vers le bunker à Gadol. Le grand bunker. Venez, nous aussi on va y aller. Ça y est, on y est. Le bunker à Gadol. Alors vous trompez pas, hein. Évidemment il ne s'agit pas seulement de la structure que vous voyez là. Il y a une structure souterraine, bien sûr. Et la porte que vous voyez là est protégée par une autre porte massive en béton. Donc vous inquiétez pas, c'est pas en 2-2 qu'on va pouvoir l'ouvrir ce bunker. D'ailleurs, eh bien, on va essayer d'abord de tirer. De tirer, vous voyez tous les impacts de balles qui sont là, ça va rien faire. Ensuite, on va tirer un coup de bazooka. Ça va à peine égratigner le béton. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas 36 solutions. Pour pouvoir passer, il va falloir y aller aux explosifs. Et on arrive ici. Et on va poser les pains d'explosifs un par un pour finalement faire péter la porte d'entrée et réussir à rentrer dans le bunker. Une fois qu'on a pris le bunker à Gadol, ça y est, il est presque 6h du matin. Pas encore, mais presque. Ça y est, la colline des munitions est entre nos mains. Waouh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, on reste pas là, on continue à avancer. Vers où on avance? N'oubliez pas l'objectif. L'objectif, c'est de finir sur le Mont Scopus, sur le Harat Sofim, aller retrouver nos hommes. Et donc on continue à avancer, pratiquement sans résistance par rapport au combat de Givat HaTachmoshet. Et on va finalement arriver, pas sur le Mont Scopus, qu'on va réussir à sauver, qu'on va dépasser, et on va arriver au Mont des Oliviers. Au Mont des Oliviers, on va se retrouver à 6h du matin presque, un peu plus tard, à l'hôtel intercontinental, qui est aujourd'hui l'hôtel des Sept Arches, avec le lever du soleil. Un lever de soleil magique. Pourquoi magique ? Parce qu'on a d'un côté nos parachutistes fatigués, éreintés d'un combat incroyable. Le soleil se lève dans leur dos et embrasse de sa lumière toute la vieille ville, le mont du temple. Et là, tout le monde se dit qu'on est devant une réalité historique incroyable. Et c'est à ce moment-là que Botagour va demander l'autorisation. Attendez, on va quand même pas rester sur la colline. Il faut qu'on y aille! Je sais que c'était pas prévu. Et donc on attend les ordres qui vont venir de Yitzhak Rabin, chef d'état-major, de Moshe Dayan, le premier ministre de la Défense. Est-ce qu'on va y aller ou est-ce qu'on va pas y aller? Pour que finalement, à 6h17 du matin, l'ordre vient enfin. La Noah El Aïr! On avance vers la ville! Et donc à ce moment-là, tous les soldats qui sont ici, sur le Mont des Oliviers, eh bien vont descendre le long du Mont des Oliviers, remonter par la Porte des Lions, rentrer dans la vieille ville et finalement arriver quelques heures plus tard avec cette phrase historique: le mont du temple est entre nos mains.
Anachnu betoch ha'ir ha'atika. Anachnu betoch ha'ir ha'atika.
Har ha'bayit be'edenu, kan talmid. Har ha'bayit be'edenu. Rosh Trevke Palo, kol hakavod, kol hakavod.
Sauf que attention, tout le monde n'est pas parti d'ici, on va quand même pas laisser la colline des munitions toute seule. Résultat des courses, il y a un petit contingent de soldats israéliens qui restent ici. Et on rassemble nos morts et on rassemble également leurs morts. Vous avez entendu parler de la morale juive? On ne va pas laisser des cadavres jordaniens qui en fait se sont battus pour ceux qui croyaient eux être juste, leur combat. Alors on s'est battu contre eux, on les a battus, mais on ne va pas les laisser comme ça. Regardez ce qui se passe ici, c'est un truc que vous ne verrez nulle part ailleurs. À l'intérieur du bunker, lorsque finalement il n'y avait plus personne, il n'y avait plus d'ordre non plus, il y a une initiative profondément juive qui va être mise en place par les soldats de Tzahal. On va retrouver 17 corps jordaniens à l'intérieur du bunker que les soldats d'Israël vont tout simplement décider d'enterrer avec les honneurs. On peut voir ici à l'intérieur la stèle commémorative et représentative des 17 soldats jordaniens qui ont été enterrés par les forces armées israéliennes sans qu'on leur ait donné l'ordre, mais simplement parce que c'est ce qu'il fallait faire.